Bonjour, merci d'être venu pour cette présentation du travail de Hervé Le Tellier. Hervé Le Tellier, tu es né en 1957 et a beaucoup publié avant le fameux Goncourt. Et surtout, tu es reconnu comme un Oulipien, membre de l'Oulipo depuis 30 ans.
Oui, 30 ans, exactement. Oui.
Alors, bien sûr, bon, on va en parler. L'Anomalie est également un roman oulipien. On verra ça en fin de parcours. Dans un premier temps, je ne peux pas résister à l'envie de citer quelques titres de la bibliographie. Alors, certains sont assez poétiques, tels que les Sonates de Bar, ou celui-là, j'aime beaucoup, Le voleur de nostalgie. Et puis d'autres, franchement, plus humoristiques, Les amnésiques n'ont rien vécu d'inoubliable. Joconde jusqu'à 100, avec une version augmentée, Joconde jusqu'à 100 et plus si affinité, suivi de Joconde sur votre indulgence. Il y a aussi l'Encyclopédia Inutilis, Guerre et plaie. Alors je ne suis pas certain que celui-là soit vraiment très très drôle, c'est à vérifier. La chapelle Sextine. Alors précisons tout de suite que certes il y a du sexe, sinon quel intérêt, mais que le titre fait référence à la sextine, une forme moyenâgeuse poétique et à contrainte. Tu peux tout de suite en dire quelques mots de cette
de
forme
la sexi- ouais. De la sextine. Oh là, alors, on a combien de temps devant nous? Non, si on veut vraiment expliquer la sextine, c'est long. D'abord parce que c'est une forme qui date du Moyen-Âge, qui est inventée par Arnaud Daniel, qui est un troubadour, dans lequel il écrit 6 strophes de 6 vers suivies par un envoi. Jusqu'à présent, tout va bien. Donc 6-6-1. Et ce qui permute dans la sextine de Arnaud Daniel, ce sont les mots qu'il met en bout de vers, qu'on appelle abusivement des mots rimes. Et donc ces mots permutent d'une manière qu'on appelle escargotine, parce que dans la première strophe, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la deuxième strophe, on a 6, 1, 5, 2, 4, 3, etc., etc., etc. Donc c'est un système de permutation qui est très... disons, très utile pour les troubadours, parce que pour la mémorisation de leurs œuvres qui sont souvent chantées ou qui sont souvent, en tout cas, accompagnées d'une mélodie, pas forcément chantées, mais accompagnées d'une mélodie, ce système est très pratique. Et quand on compose un texte qui obéit aux règles de la sextine, ce qui va permuter, ce n'est pas du tout, en fait, pour un prosateur, ce n'est pas des mots, ça va être des concepts, ça va être... Des parties du corps. Donc moi j'ai les parties du corps féminin qui permutent, les parties du corps masculin, les lieux, les villes, des couleurs, enfin toute une série de choses qui vont finalement créer une sorte de cahier des charges au début de l'écriture qui engendre des textes qui sont tous des textes pornographiques puisque c'est 78 rapports sexuels. 78 est aussi un nombre spécial, c'est deux fois la sextine, enfin bon bref. Donc c'est assez, assez complexe. C'est pour ça que, en fait, j'explique jamais, parce que ça fait partie de ces textes, quand on les explique, on les tue, quoi. Ouais. Mieux les lire. Sinon, c'est extrêmement ennuyeux à expliquer. Alors que les textes eux-mêmes sont plutôt sympathiques à lire, comme peuvent l'être sympathiques des rapports sexuels. J'ai espéré beaucoup, avec ce livre, emporter aux États-Unis un prix qui s'appelle le Bad Sex in Fiction Award. C'est-à-dire la récompense pour un livre dans lequel il y a une mauvaise... Un mauvais moment sexuel. Philippe Roth l'a eu. Enfin, c'est glorieux. Hein. C'est parce que c'est des moments où, quand on écrit le sexe dans les livres, on court beaucoup de risques. Le risque du ridicule, d'abord.
Très facile.
Ça va très vite, oui. ensuite, le risque de la platitude, ce qui peut aller de même, d'ailleurs, ensemble. Et puis ensuite, le risque de l'énorme vulgarité. Voilà. Le livre courait tous ces risques à la fois, donc je me suis dit que j'avais peut-être ma chance, mais finalement non, j'ai été écarté au profit de David Lodge qu'il a eu cette année-là. Voilà.
Alors dans les autres titres humoristiques, il y a Les opossums célèbres, et oui, il y en a, Un fromage sans doute, ça laisse beaucoup espérer, Compte liquide, Demande aux muets, Moi et François Mitterrand. Alors d'autres sont assez logiques du fait de l'appartenance à l'Oulipo. Bon, il y a la disparition de Pérec, mais voilà, le titre entier, c'est la disparition de Pérec. Pérec écrit avec un K, ça fait partie de la série du Poulpe, c'est ça?
Oui, c'est une demande de Jean-Bernard Puy. Dans les années 90, toute une série d'auteurs qui étaient des amis de Jean Bernard ont répondu à une demande qu'il avait faite de, d'écrire en 2 mois, en gros, si possible 6 semaines, un livre qu'il appelait des poulpes, qui font référence plutôt à, au pulp, donc à des, vous savez, le pulp fiction de Tarantino, ouais. C'est exactement la même idée. Donc c'est le pulp, c'est un type de papier de mauvaise qualité qui donne des livres d'une qualité équivalente au papier. Donc on avait écrit tous très vite des petits romans qui eux aussi obéissaient à un cahier des charges. On prenait un personnage qui s'appelle Gabriel le couvreur. Il fallait le passer au suivant, donc on ne pouvait pas lui faire perdre un doigt, il ne fallait pas trop l'abîmer, il ne fallait pas que sa copine meure. Enfin, il fallait qu'il reste le même du début à la fin quand même.
Donc, il y avait de la contrainte.
Il y a une petite contrainte et puis il fallait qu'il y ait justement une scène de beuverie avec une bière, une scène de sexe avec sa copine. Enfin, il y avait toute une série de choses qu'il fallait respecter pour que le livre présente par rapport au précédent une sorte de cohérence. Et sinon, tous les livres étaient différents les uns des autres. Et le mien est un livre qui, lorsqu'il a été, republié récemment en folio policier, et folio noir, je ne sais plus comment ça s'appelle, et je me suis rendu compte à quel point il y avait des éléments qui anticipaient d'une certaine manière la question abordée dans l'anomalie qui est celle du double. Voilà, je m'en suis rendu compte après coup, évidemment, parce qu'on ne se rend jamais tout à fait compte des livres qu'on écrit au moment où on les fait.
Bon, il y a eu aussi dans les livres, entre guillemets, sérieux, l'esthétique de l'Oulipo.
Ça, c'est, alors, c'est très sérieux, ça.
Oui, voilà. Ce que l'on sait moins, c'est que tu as également œuvré dans le domaine du théâtre. On en parle moins. 11 pièces, quand même, dont certaines sont des, en fait, des reprises de romans et de textes courts qui avaient déjà été prépubliés.
Ça, ce n'est pas moi, justement. C'est-à-dire que l'avantage du théâtre, c'est que des gens décident de prendre une de vos pièces, ou un de vos textes plutôt, et d'en faire une pièce. Donc ça, c'est le gros atout des auteurs. C'est que quelqu'un vient vous voir en disant « j'ai beaucoup aimé Schmout Schmout ».
C'est de l'adaptation.
Et je vais adapter et ça va devenir une pièce. Donc j'ai eu à peu près 5 ou 6 textes comme ça qui ont été adaptés au théâtre et dont je ne pensais pas du tout qu'ils étaient adaptables, mais qu'ils l'ont été. Puis il y a des pièces écrites directement.
Pareil pour l'opéra, parce qu'il y a eu 3 opéras aussi.
Les opéras, oui, les opéras, c'est vraiment une commande. C'est-à-dire, il y a une association qui s'appelle Prolyrica et qui dépend en fait de Beaumarchais, enfin c'est des prix. On avait eu un prix pour un projet d'opéra avec François Ribach. François Ribach, c'est un musicien qui a fait le dictionnaire du rock pour ceux qui s'intéressent au rock. Et François avait fait des opéras et j'ai écrit des livrets pour lui. Voilà, j'ai travaillé sur 3 livrets avec lui.
D'accord. Parlons un peu de l'Oulipo, justement. Bon, il y a beaucoup de précurseurs, enfin de créateurs de l'Oulipo qui avaient une formation de mathématicien. C'est ton cas également. En quoi cette formation peut être utile? Si je reprends la fameuse formule, l'auteur oulipien est un rat qui construit lui-même le labyrinthe dont il se propose de sortir. Est-ce que la formation initiale en mathématiques aide ou forge une pensée qui soit... Dans la logique de l'écriture oulipienne.
Ben, les rats qui sortent des labyrinthes n'ont pas de formation mathématique.
C'est vrai.
Donc, non, c'est avant tout une démarche. C'est-à-dire qu'on se dit que travailler sur des formes, sur des structures, va apporter quelque chose au livre. Donc, le fait de s'être soi-même intéressé aux mathématiques, c'est à la fois un atout parce qu'on a une pensée qui peut effectivement aller dans cette direction-là, mais ce n'est pas du tout une nécessité. Il y a beaucoup d'oulipiens qui ne sont pas du tout d'origine mathématique. Il y en a 3 au moins qui sont connus, qui sont Claude Berge, Raymond Queneau, qui était membre de la SMF, Société des mathématiciens de France, et puis évidemment Jacques Roubaud, qui est aussi mathématicien. Actuellement, il y a Michel Audin, il y a aussi Paul Brafort, qu'il ne faut pas oublier, qui était plutôt lui un informaticien. Donc, il y a toute une série, effectivement, de membres de l'Oulipo qui ont cette formation-là, mais ce n'est pas du tout indispensable. J'allais oublier Pierre Rosenstiel, qui est un théoricien des graphes, qui est un très important théoricien des graphes, qui avait travaillé sur des choses très étonnantes, comme par exemple, comment est-ce que ça change de passer de l'hélice au réacteur pour les aéroports? Qu'est-ce que ça change à leur organisation?
Parce au niveau architectural?
Au niveau de l'organisation du vol, le fait que les avions doivent tourner dans le ciel avant de pouvoir se poser, ils doivent pouvoir se mettre en suite les uns derrière les autres avant de pouvoir se poser les uns après les autres. C'est quelque chose qui s'est posé avant tout le monde et ça changeait par rapport aux hélices. Je pourrais expliquer, mais c'est son sujet de thèse. Donc il y a absolument de tout à l'Oulipo. Et puis il y a aussi, une fois de plus, des gens qui ne viennent pas du tout des mathématiques, qui viennent d'ailleurs, qui viennent de la linguistique, qui viennent de l'écriture en tant que telle, et qui vont faire de très bons oulipiens, parce qu'il n'y a pas de moindre. Donc la question des mathématiques semble quelque chose de compliqué, mais en fait, ça ne l'est pas. Pour conclure sur ce point, je voudrais juste dire une petite chose, c'est que on l'oublie, mais dans beaucoup de langues, les mots compter, C-O-M-P-T-E-R, et raconter ont la même origine sémantique et même étymologique. Par exemple, en allemand, zahlen, c'est compter, erzählen, même chose, c'est raconter. Et c'est normal parce que très souvent, comme je le disais pour les troubadours, le fait d'avoir une structure présente dans le discours, présente dans l'œuvre, permet la mémorisation. Il y a un phénomène mnémonique très puissant qui fait que les poètes se souviennent assez facilement de leur texte parce qu'il y a de la rime, parce qu'il y a de la mélodie. C'est pas facile de se souvenir par cœur du début de La Recherche du Temps Perdu. C'est plus facile pour La Cigale et la Fourmi, il me semble. Et c'est parce qu'il y a une présence justement mélodique, une présence rythmique qui est là et qui a à voir évidemment avec l'arithmétique, avec le fait de compter. Et donc c'est normal que dans beaucoup de langues, ces deux mots, qui l'un fait référence à l'écriture et l'autre fait référence au comptage, aient la même origine.
Comment es-tu arrivé à l'Oulipo ? Comment s'est passée l'acceptation dans le groupe ? De quelle manière ?
Oui, alors, il y a deux façons de le dire. La première chose, la plus simple, c'est qu'on a été invité d'honneur, D'H-O-2-N-E-R, hein. Non pas d'honneur, voilà. Donc cet invité, il peut ou non, entre guillemets, plaire aux oulipiens, puisqu'on est, on est coopté à l'unanimité, hein, ce qui est normal parce qu'après on doit se fader l'oulipien qu'on a coopté toute sa vie. Donc il vaut mieux avoir été d'accord et pas que ce soit la majorité simple. Donc bon, on a donc une logique de cooptation et la raison pour laquelle on est coopté, c'est qu'on a écrit des textes qui peuvent laisser supposer que ce qu'on va produire va être oulipien. En fait, les oulipiens qui arrivent à l'Oulipo se rendent compte d'une chose, c'est qu'ils ont toujours été oulipiens avant même de rentrer à l'Oulipo. C'est-à-dire que ça fait partie de leur univers mental, de leur démarche artistique, poétique, et d'un rapport au jeu, qui est un rapport extrêmement fort dans leur travail. À Nantes, vous avez une oulipienne qui est Clémentine Mélois et qui a un rapport vraiment ludique à l'art et aussi au travail d'écriture. Donc cette dimension, elle est présente pratiquement chez tous les oulipiens. À un moment donné, il y aura cette dimension de rapport à la langue qui serait un rapport effectivement de jeu.
Un jour, tu m'avais dit que pour rentrer à l'Oulipo, il fallait d'abord surtout ne jamais le demander.
Oui. Oui, en fait, on le découvre en y rentrant, qu'il ne fallait pas demander avant. Mais comme de toute façon, on n'a pas demandé et qu'on est coopté, à un moment, on est surpris. Oui, il ne faut pas demander à rentrer à l'Oulipo. C'est un peu le contraire de l'Académie française où il faut faire le tour des popotes pour obtenir l'accord de tout le monde. À l'Oulipo, si on commence comme ça, on est quasiment de fait exclu. Donc les gens qui demandent à monter, à rentrer à l'Oulipo, on leur dit stop. C'est l'Oulipo qui décide et c'est très bien comme ça. Et le fait de demander, effectivement, est un facteur d'exclusion.
Oui. Tu as reçu le prix du roman d'amour avec Je m'attache très facilement.
Oui. C'est 2007. Une ironie, puisque c'est quand même un roman sur le désamour et c'est un roman sur une bérésina amoureuse.
C'est aussi un roman très avec énormément de références à l'autofiction.
Ah, c'est une autofiction.
Voilà.
C'est-à-dire que c'est un livre écrit en très très peu de temps, c'est mon record, je crois que j'ai écrit en 10 jours. Il faut dire que j'avais que ça à foutre, puisque j'avais rendez-vous avec une fille qui ne venait jamais. Donc j'étais parti loin en plus pour la retrouver, et comme elle n'était jamais là, j'avais tout le temps du monde pour écrire entre deux rendez-vous ratés. Et ça comblait très bien le temps. Donc, et en plus j'avais des camarades à qui j'avais dit dès le départ, je vais droit dans le mur en klaxonnant. Et j'avais décidé de leur envoyer tous les soirs ou tous les jours au moins un chapitre. En fait, j'en ai envoyé beaucoup parce que j'avais beaucoup, beaucoup de temps pour écrire. Et j'en envoyais presque parfois 2 chapitres par jour. Et j'avais une bande de 6 amis ou 7 amis à qui j'envoyais mes chapitres au fur et à mesure. Donc oui, ça c'est une démarche oulipienne dans le sens où c'est une procédure. C'est-à-dire que c'est une sorte de poème écrit, enfin de texte écrit sur la base d'une procédure qui consiste à écrire dès qu'on peut, et tout le temps, même pendant le repas.
Alors, Sonate de Bar est constituée de textes très courts, à peu près 2 pages chaque. Ce sont des nouvelles qui étaient à l'origine publiées dans la presse dans l'événement du jeudi.
Ouais.
En fait, ce sont les titres qui sont particulièrement intéressants. Est-ce que tu peux en parler ?
Des titres de Sonate de Bar ?
Oui.
En fait, Sonate de Bar était de... C'était très simple le principe. J'avais un quart de page toutes les semaines dans l'événement du jeudi. Toutes les semaines, j'avais vendu au rédacteur en chef, qui s'appelle Jean-François Kahn, mais lui-même avait convaincu Bernard Chapuis de m'embaucher. Et j'avais donc toutes les semaines une nouvelle qui faisait 2000 signes, exactement 2000 signes. Alors pourquoi ? Parce que j'étais tout le temps en retard. L'événement du jeudi sortait, comme son nom l'indique, le jeudi. Et donc je remettais mon texte le mardi matin à 11h. Et le metteur en page m'avait dit, tu peux remettre vraiment à 11h, mais tu me remets 2000 signes. Parce que sinon, je n'arrive pas à le caser dans la maquette. Donc je m'étais amusé à lui remettre systématiquement 2000 signes.
Pile poil.
Donc, pile poil. Quand la robe était rose et qu'il manquait une lettre, j'ai rajouté une lettre et la robe devenait rouge. Voilà. Évidemment, c'est absurde parce qu'il y a des retours à la ligne qui font que de toute façon, ce n'est pas la bonne distance. Mais ça fait rien, j'avais quand même ça en tête. En plus, il y avait des corrections, parfois il y a des erreurs. Mais en tout cas, j'en mettais 2000 signes. C'était très oulipien, je n'avais pas du tout conscience, je ne réfléchissais pas du tout à faire oulipien. Je réfléchissais juste à m'amuser avec cette idée de la contrainte de 2000 signes. Et je partais d'un texte qui faisait toujours 2500, parce que j'écris un peu long, et après je réduisais. Donc c'était un apprentissage d'une chose qui est très importante en littérature, c'est d'aller à l'os, c'est-à-dire de réduire, comme on fait réduire les champignons, pour arriver à quelque chose qui tient la route et qui est effectivement plus dense que le premier jet. Donc de ce point de vue-là, j'étais assez content de ce type de boulot, puisqu'il fallait caser à la fois une petite nouvelle, une recette de cocktail, et en plus une narration qui tienne vraiment... la route avec 3 personnages, 4 personnages importants qui étaient tout le temps récurrents, qui étaient la serveuse, le barman, le joueur de piano, le pianiste, etc. Donc ça faisait une sorte d'unité. Ce qui était assez amusant, c'est que lorsque je les ai réunis, parce que c'est mon premier bouquin, je me suis rendu compte que c'était très bien de le publier toutes les semaines, mais quand on les collait les uns derrière les autres, les répétitions étaient omniprésentes. Parce qu'évidemment, d'une semaine sur l'autre, il y avait il prit le shaker, il prit le verre. Ça n'avait aucune importance une semaine plus tard. Mais quand on le lisait à une minute d'intervalle, c'était horrible à lire. Je l'ai laissé tel quel, néanmoins. Il y a un côté très, très répétitif dans ce livre qui m'amuse, néanmoins. Mais c'était une bonne école de densité. Et aussi une bonne école de chercher comment raconter une histoire. Et il y avait beaucoup d'hommages, en fait, à des auteurs que j'aimais bien. Il y avait des hommages à... J'avais fait un texte proustien pour l'anniversaire de Proust. Non, pour le jour où Proust était tombé dans le domaine public. Parce qu'on tombe dans le domaine public. Ça ne fait pas de bruit, mais on tombe. Et puis, j'avais un hommage à Frédéric Braun, qui est un auteur de science-fiction que j'adorais. J'avais un hommage à un mathématicien qui s'appelle Paul Erdős.
Oui.
J'avais des hommages à beaucoup
de gens. Lui, justement, c'est un personnage incroyable, c'est un personnage de roman. Enfin, je veux dire, sa vie est hallucinante.
Paul Erdős, je ne sais pas si dans la salle les gens le connaissent, mais c'est un algébriste et un absolument hallucinant. C'est un type tellement bon en mathématiques qu'il y a un nombre qu'on appelle le nombre d'Erdős. Oui. Le nombre d'Erdős, si vous êtes Erdős, vous êtes le nombre d'Erdős 0. Normal. Si vous avez publié un article avec Erdős, vous êtes le nombre d'Erdős 1. Vous êtes publié un article avec quelqu'un qui a publié avec Erdős, vous êtes de nombre d'Erdős 2, etc. Et jusqu'à 5, donc quelqu'un qui a publié un article, qui a publié un article, qui a publié un article avec quelqu'un qui a publié avec Erdős, jusqu'à 5, on est un très bon mathématicien. C'est dire le niveau de qualité d'R2. Et puis R2, c'est aussi un type qui avait des intuitions. Des intuitions incroyables. Il y a toujours une conjecture d'R2. Il y a toujours $1 million pour celui qui trouvera.
Oui, en plus, c'était un personnage qui était apatride.
Hongrois.
Hongrois, mais exilé partout.
Que j'avais interviewé une fois.
Oui, c'est ça. Il y avait une rencontre, c'est ça.
Je l'avais rencontré une fois pour une interview justement consacrée aux mathématiciens en général. J'avais rencontré plusieurs mathématiciens qui étaient des gens qui, moi, me fascinaient parce que j'étais tout jeune. Et quand j'avais rencontré R2, je sortais de mes études de mathématiques. Et je l'avais croisé grâce à Alain Cohn. Je l'avais croisé à l'aéroport du Bourget. Et il attendait qu'on vienne le chercher parce qu'il y avait une sorte de R2 sitting. Comme R2 ne savait rien faire par lui-même, il fallait tout le temps le prendre et l'emmener quelque part. Il n'avait pas le permis de conduire, il ne parlait que l'anglais, enfin, c'était compliqué pour lui. Et donc il m'attendait au bar avec des sandales, pieds nus quasiment, habillé n'importe comment. Donc je l'ai reconnu tout de suite. Hein, parce que
sa vie tenait dans une valise.
Sa vie tenait dans une valise, oui. Ouais, c'était un type qui vivait pour les mathématiques.
Et d'ailleurs, c'était un très bon pédagogue.
Oui. J'en ai croisé deux comme ça. J'ai croisé Serge Lang, c'était une grosse découverte aussi un algébriste. Et j'ai croisé R2, voilà, c'est mes deux moments de gloire mathématiques. Je crois que je suis de nombre d'R2, 19.
Oups.
Oui, je sais.
Voilà, on va pas suivre là du coup. On a pu parler de l'influence de Calvino assez régulièrement, mais notamment avec le voleur de nostalgie, avec les références. Enfin, tous les thèmes du jeu, chasse au trésor, et surtout des niveaux de réalité qui sont enchâssés les uns dans les autres. Est-ce que le roman a été difficile à écrire, surtout avec cet hommage constant à Calvino ?
L'hommage ne posait pas de problème, parce que je m'étais mis sur une colline qui était celle de Calvino. C'est-à-dire que j'avais mes livres de Calvino, je les relisais de temps en temps pour essayer de me ressourcer finalement à ce qui me servait de base littéraire et de base, non pas narrative, mais de base, disons, vraiment stylistique, qui était la légèreté de Calvino, qui est légendaire. Calvino, c'est quelqu'un dont Pavese disait que c'était l'écureuil de la plume. Donc, voilà, il fallait faire quelque chose qui soit virevoltant en permanence, un peu comme justement les petits gris, et puis quelque chose qui soit aussi de nature d'une grande légèreté, y compris dans la narration. Donc ça, c'était pas la chose la plus difficile, mais ce qui était un travail sur les genres était intéressant à faire, parce que dès le début, j'ai eu un travail sur le genre. L'histoire est simple à raconter, c'est l'histoire d'un type qui écrit des recettes, c'était mon cas d'ailleurs, dans l'événement du jeudi.
Oui,
et donc j'ai repris des recettes de pâtes, parce qu'après avoir fait des cocktails, j'en ai vraiment eu marre, j'ai fait trois ans à faire des cocktails, j'ai fait des recettes de pâtes pendant 2 ans. C'était vraiment, franchement, j'ai eu de la veine. J'ai très bien payé pour raconter des petites nouvelles pendant 6 ans. Et donc, ces nouvelles étaient publiées et j'avais un premier personnage qui envoyait un message, une lettre, aux journalistes qui faisaient ces nouvelles, aux critiques culinaires. Et il lui envoyait un message parce qu'il portait le même nom que lui, Giovanni d'Arezzo, qui était le pseudonyme que j'utilisais dans les noms du jeudi. Et il lui répondait, je m'appelle aussi Giovanni D'Arezzo, c'est pourquoi je t'écris, et je vais critiquer ton écriture qui est vraiment, par moments, excuse-moi, mais tu tombes dans le cliché. Et ça commence par une première lettre comme ça, et puis le personnage critique culinaire découvre qu'il y a 3 Giovanni D'Arezzo, et il écrit aux 3 Giovanni D'Arezzo, et il reçoit 3 réponses. Voilà. Et après, la difficulté, c'est que tous mes personnages s'appellent Giovanni D'Arezzo, ce qui, pour un lecteur, est assez perturbant. Donc, il faut des styles très différents les uns des autres. Et c'était un apprentissage stylistique, puisque j'avais ce qu'on peut appeler le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est-à-dire, j'avais mon critique culinaire à Paris qui était en correspondance avec ces 3 personnages. Pour moi, le Saint-Esprit, ça représentait celui qui était l'inconnu, qui lui critiquait en permanence son travail. Il y avait le prisonnier qui était apparemment dans une tôle près de Florence. Et puis, il y avait un vieux monsieur retraité, prof de français, qui lui répondait. Et ces 3 personnages étaient stylistiquement très identifiés. Et ça, c'était vraiment intéressant à faire. Et après, la construction, j'avais construit quelque chose qui fonctionnait à peu près. Puis, je m'en suis éloigné parce que j'ai priorisé la fiction. Je n'ai pas suivi le jeu que j'avais choisi au départ.
Oui, justement, généralement, est-ce que les romans un peu longs, hein, j'entends, nécessitent vraiment un plan extrêmement précis ou est-ce qu'il y a une improvisation ? Est-ce que, en gros, est-ce que tu commences par la première page et puis tu te laisses guider ou alors est-ce que tu essayes de structurer au maximum avant l'écriture elle-même ?
Ben, je pense que ça dépend des auteurs et pour moi, ça dépend des
livres.
Oui, mais
voilà.
Il y a des livres sur lesquels je ne peux pas... L'anomalie sans structure, ce n'est pas possible. C'est juste une impossibilité d'écrire un bouquin comme l'anomalie sans avoir un plan, sans avoir quasiment une visualisation de tout ce qui va se passer, même si cette visualisation est temporaire et qu'il va s'insérer des choses nouvelles, on a quand même besoin au départ d'une sorte de vraie structure dans laquelle on va s'organiser. Mais dans la plupart des cas, j'ai une vague idée de la fin, au moins de la fin, et de comment y arriver. Toute la question... Et justement, d'aller de manière la plus fluide et la plus, entre guillemets, qui donne envie de tourner les pages au lecteur pour arriver à la fin. J'essaie d'écrire des livres qui sont des livres dont on a envie de tourner les pages. Quoi. Je me souviens que j'étais interviewé sur l'anomalie par je ne sais plus qui, je crois que c'était Léa Salamé, et elle me dit quand même, c'est quand même un page-turner. Donc je lui dis, écoutez, je ne crois pas qu'il y a une contradiction entre le fait d'écrire un livre et d'avoir envie que le lecteur tourne les pages. Donc pour moi, tous les livres doivent être des page-turners. Si un livre, on a envie de s'arrêter, c'est qu'il a raté. Quoi. Je ne comprends même pas que le concept de page-turner existe. Enfin, j'exagère, je vois très bien qu'il y a des livres qui sont pour moi les plus difficiles et dans lesquels je suis malgré tout allé jusqu'au bout, même si ce n'est pas des page-turners. Je ne donnerai pas de nom, mais voilà. Mais... Et je sais que ce sont des livres intéressants pour d'autres, mais qui pour moi ont demandé des efforts. Musil, par exemple. J'aime bien Musil, mais j'ai eu du mal à rentrer dans Musil. L'homme sans qualité, ça a été difficile. Quoi. Et je savais que c'était important, donc je l'ai quand même lu, mais ce n'était pas un livre dont je tournais les pages avec une avidité folle. Voilà.
Oui, mais y a avec l'anomalie, bon, on peut en parler tout de suite. Il y a quelque chose qui était surprenant. En fait, c'est justement le fait d'abord qu'il ait eu quelque part le Goncourt, alors qu'on est très très loin de certains critères de Blanche qui sont généralement privilégiés pour ce prix. Et ensuite, le succès qu'il a obtenu, le nombre de traductions, etc. Alors, bon, il est possible aussi qu'il soit arrivé, en fait, au très, très bon moment par rapport au confinement, qui, justement, a autorisé les gens, amener les personnes, les lecteurs à s'interroger sur la notion de liberté, d'environnement et de reconstruction du monde autour d'eux. Ça fait plusieurs questions en même temps, désolé.
Ouais. Non, j'essaie de les serrer. La première chose, c'est que ce n'était pas un livre qui était fait pour la Blanche. Il faut commencer par dire ça.
Pourtant, c'est Gallimard.
Oui. C'était un livre qui était fait dans un cadre qui m'intéressait, moi. Je voulais écrire ce livre et je l'écrivais à l'époque où j'étais dans une autre maison, qui était La Thèse, où j'avais publié quelques livres. Et c'était Carina Hossine qui était mon éditrice. Quand Carina a décidé de quitter La Thèse, et qu'elle a pris la direction de Gallimard, elle a emmené quelques auteurs avec elle, dont moi. Donc je me suis trouvé dans La Blanche, sans passer par le comité de lecture, donc dans les bagages de Carina. Voilà. J'étais dans le panier de la mariée. Je ne suis pas sûr que j'aurais passé les différentes portes du comité de lecture avec un livre pareil. Un des exemples, c'était lorsque j'ai dû présenter, c'était un moment où on présentait le livre à la presse avec toutes les contraintes du confinement. Ça voulait dire que j'avais une sorte de zoom et que je présentais en 4 minutes avec un journaliste qui m'interviewait la manière dont était structuré le livre. Et je me souviens que j'avais 3 questions. La première question, c'était quelle est l'histoire de votre livre ? Donc je faisais non, je ne peux pas raconter une histoire, ce n'est pas possible. Bon, c'est pas grave, me dit le journaliste. Quel est le héros de votre livre ? Et donc je lui dis, ça va pas être possible non plus. J'en ai 11. On va pas y arriver comme ça. Il me fait bon. Alors comment ça s'insère dans votre œuvre ? Je lui dis, arrêtez, je fais jamais le même livre. Donc ça peut pas s'insérer. Bon, il m'a dit, on va faire autrement. Allez-y. Et là, j'ai raconté ce que je voulais pendant le temps. Voilà. Mais ce qui voulait dire que c'était pas un livre pour la rentrée littéraire, qui sont souvent des livres linéaires, qui sont souvent des livres relatifs dont le pitch, comme on dit en français. et relativement simple. Oui. Voilà. Ce qui n'était pas vraiment le cas de ce livre-là. Et qui n'a pas été construit d'ailleurs pour rencontrer ce succès. C'était vraiment le livre que j'avais envie d'écrire. Ça correspondait à un désir de m'amuser avec des codes, qui étaient d'ailleurs ceux du best-seller, ce qui n'est pas pareil que le page-turner, les codes du best-seller. Et je m'amusais avec, mais je ne pensais pas du tout faire un best-seller. Même si j'avais dit à Carina, je pense que je vais peut-être en vendre 30 000, ce qui est énorme pour moi. Bon, finalement, c'est 50 fois plus, mais ce n'était pas du tout le projet de départ. C'était juste un projet de m'amuser avec des codes et de faire un livre sur des sujets qui m'intéressaient. Un, la confrontation à soi. Et deux, la question de la virtualité du monde. Et ce n'était pas vraiment des sujets qui étaient des sujets faits pour la blanche. Mais en même temps, après, ce qui est juste, c'est que c'était un livre qui permettait l'évasion au moment où on était confiné. Il y avait 11 personnages, alors qu'à table, on ne pouvait pas manger avec plus de 6 personnes. Donc je proposais une aventure, une vraie. Un truc de dingue, quoi. 11 personnes à table. Un truc à la limite de la légalité. Et ensuite...
Ça passe en Angleterre.
Ouais, ouais. Et donc ensuite, le troisième phénomène, ça a été que, évidemment, le livre a été couronné par le Goncourt alors qu'il marchait déjà bien. Le Goncourt n'est pas un prix qui a un effet additif. C'est un prix qui a un effet multiplicatif. Tout ça, je le dis parce que je l'ai appris, hein, je ne savais pas au départ. Hein. Bon, j'avais beau avoir enseigné l'histoire de l'édition et l'économie de l'édition, je ne m'attendais pas à un tel succès. D'ailleurs, je pense que personne s'y attendait chez Gallimard. Hein.
De toute façon, on ne peut jamais prévoir un succès.
Y en a quand même qu'on peut anticiper. Je me souviens d'éditeurs qui m'ont dit, en me montrant des livres qui, moi, me tombaient des mains, ils m'ont dit, tu vas voir, ça va marcher. Et effectivement, elle avait raison, ça a marché. Je ne donnerai pas le nom de l'auteur. Mais ça a marché. Donc parfois, il y a des éditeurs qui savent qu'un livre va marcher. Mais je vais prendre un livre dont je connais bien l'histoire et l'auteur, je n'aurais pas pensé que ça marcherait aussi bien. Parce que j'ai vu passer le manuscrit, c'était La première gorgée de bière. Je trouvais ça super, vraiment super. Mais Delerme, à l'époque, n'était pas très connu. Il avait fait un livre qui s'appelait Automne. On ne pouvait pas se douter que... ce livre qui est vraiment très très bien, hein, la première que j'aime bien, j'adore, c'est un exercice de style merveilleux, allait connaître ce succès. C'était inattendu, c'était des petites formes. La petite forme, ça ne marche pas forcément très bien, etc. Donc, parfois, on ne peut pas savoir ce qui va se passer avec un livre. Et puis, il y a des livres sur lesquels on s'attend à un succès énorme et puis on se retrouve avec des retours considérables. Donc, tout est inattendu. Il y a quelque chose qui est rassurant lorsqu'on a un prix comme le Goncourt et que ça marche très bien en France. C'est lorsque ça marche bien aussi à l'étranger. Oui, là où ils se foutent du Goncourt, ils s'en moquent.
D'ailleurs, combien de langues différentes là, ce jour
Alors c'est difficile de compter parce que parfois c'est des sessions, mais en tout, c'est dingue, il y a 47 langues, je crois. C'est évidemment très, très au-delà de mes traductions normales. Hein. J'étais traduit en une douzaine de langues à peu près. Donc j'avais déjà des éditeurs à l'étranger. Mais je n'avais évidemment pas tous mes livres traduits en 12 langues. J'avais un livre traduit en une langue, deux livres traduits dans une autre, trois livres en Angleterre, etc. Mmh. Et 47 langues, c'est énorme. C'est énorme. À un moment donné, moi, j'étais content d'arriver à 42 à cause du protocole. Déjà, je trouvais ça bien. Donc, symboliquement, j'étais super content d'arriver à 42 langues. Et puis après, ça a continué. Et puis, il y a des langues où il y a très peu de locuteurs, comme l'estonien, par exemple. Voilà. Des trucs où parfois l'éditeur est très content, il a vendu 1500 exemplaires, puis on se dit mais c'est pas beaucoup, puis il a dit oui quand même ça fait une personne sur 1000 en Estonie. Ah bon, d'accord, c'est bien.
Je crois que tu avais dit que l'anomalie c'était un Scooby-Doo. Alors oui. Je sais qu'il y a pas mal de références aux séries télé, mais quand même je pense pas que ce soit la série animée de Hanna-Barbera.
Le Scooby-Doo c'est le concept de tresse. C'est-à-dire qu'il y a 11 personnages, enfin, il n'y a pas 11 personnages, très exactement, il y a 8 personnages qui sont dédoublés, puis il y en a 3 autres, dont un est un double personnage. Mm-hmm. Adrian et Meredith, pour moi, c'est un seul personnage, c'est un couple, et ça fonctionne d'une manière autonome, c'est un fil rose. Et donc j'ai dit Scooby-Doo parce que j'avais construit mes personnages sur des styles. Donc j'avais le style comédie romantique anglaise, et ça c'était Adrian et Meredith. J'avais le style roman noir, j'avais Blake. J'avais le style roman intimiste du deuil, et j'avais le personnage de mon pilote qui n'arrête pas de mourir. Et chacun de ces styles était très autonomisé. Donc pour moi, c'était une couleur. Et j'ai dit Scooby-Doo parce que je tressais mon histoire avec le fil blanc de mon auteur, qui est Victor Meusel, qui tournait autour en permanence et qui finalement faisait que tout ça se tenait ensemble.
D'où l'obligation de vraiment préparer l'écriture,
oui,
en amont avec un plan.
C'est ça.
Enfin, avec une structure, en tout
enfin,
cas.
Enfin, on a lié de la structure, puis au fur et à mesure qu'on avance dans le texte lui-même, la structure évolue. On n'est pas, on n'est pas figé. Et puis moi, j'ai une tendance, par exemple, le livre est toulipien dans le sens où il y a des contraintes. Mais je priorise toujours à la contrainte la lisibilité. Donc, par exemple, je ne pousse pas à l'extrême les styles. Je voulais une continuité, y compris stylistique, pour qu'on ne passe pas d'un chapitre à l'autre en faisant un saut, un grand écart. Quoi. Que stylistiquement, quand même, même si on passe du policier au roman, disons, intimiste, que malgré tout, je sois quand même présent dans les deux au point que le lecteur ne se dise pas que... il a changé de livre, donc c'est le même livre. Mais en revanche, si on faisait l'expérience de lire chacun de ces petites nouvelles, parce que c'est un roman de nouvelles, c'est un roman de roman, si on les lisait chacune indépendamment, on verrait des différences stylistiques notables. Mais c'est fondu. C'est mon système permet que ce ne soit pas trop visible. Je ne souhaitais pas que l'expérimental vienne tuer la narration. Donc c'était aussi une préoccupation pour moi qui était de respecter mon projet qui était un peu expérimental, mais pas pour autant d'assassiner le lecteur avec un projet trop expérimental.
Oui, d'ailleurs c'est ça qui est assez remarquable dans le livre, c'est qu'il est à la fois expérimental et en même temps c'est un livre grand public.
Ah bah oui.
C'est un livre de, moi, pas... que n'importe quelle personne peut lire sans voir les contraintes.
Mais c'est,
je veux bien que tu en donnes une liste des contraintes qui ont été utilisées, mis à part les styles propres à chaque personnage.
C'est... Bon, alors, à part les styles, il y a la manière dont c'est organisé, les réapparitions des personnages les uns après les autres, les logiques de longueur de chacun des chapitres qui sont différentes, qui sont optimisées. Il y en a un que j'ai coupé en deux parce qu'il était beaucoup trop long et que ça faisait un tunnel. Il y a des logiques qui sont des débuts de chapitres qui sont empruntés parfois, pas tous, mais empruntés parfois à d'autres œuvres. Par exemple, il y en a une, je donne toujours cet exemple-là parce que ça m'évite de citer les autres, mais il y a le début de La promesse de l'aube, de Romain Gary, qui est transposé intégralement dans le début d'un chapitre qui s'appelle Portrait de Victor Meusel en revenant. Il y a dedans exactement 59 fragments qui sont extraits de Sénèque, de Kafka, de Nietzsche, de beaucoup d'auteurs, et que je transforme pour complètement altérer la chose. La seule chose que je ne transforme pas, c'est Sénèque, mais je donne un petit élément derrière. Par exemple, Sénèque a une phrase que j'aime beaucoup, qui dit les hommes fatigués sont corps et leur. Et j'avais même mis virgule, disait Sénèque. Puis mon éditrice m'a dit attends, c'est d'un pédant, d'un prétentieux, supprime-moi ça. Donc j'ai supprimé. Et derrière, je dis donc les hommes fatigués sont corps et leur, les hommes épuisés beaucoup moins. Ce qui est juste. Donc j'ai amélioré Sénèque. Et idem, quand j'avais des fragments de Nietzsche, des fragments de Kafka, je transformais complètement pour qu'on ne reconnaisse pas du tout. C'était que pour moi. Et parfois, on voit vraiment le truc. Par exemple, toutes les familles heureuses se ressemblent. Chaque famille malheureuse est à sa façon, qui est le début d'Anna Karénine, devient tous les vols sereins se ressemblent. Chaque vol turbulent l'est à sa façon. Mais ça, c'est quand même du jeu, quoi. Et ça, c'est visible pour certains lecteurs. Mon traducteur allemand a vu tout ce qui venait de Kafka et qui venait de Nietzsche. Mon traducteur russe a vu Anna Karénine. Et puis, il n'a pas forcément vu d'autres extraits. Donc, j'avais une sorte de charte de traduction faite pour tous les traducteurs qui leur permettait de...
Il y en a quelques-uns qui ont dû s'amuser, d'ailleurs.
Oui. Il y en a qui ont amélioré mon texte. Le texte s'est beaucoup amélioré grâce à eux, en fait, parce que j'avais des erreurs que je n'avais pas vues. Je m'étais trompé, par exemple, sur le slogan de... Sur le slogan de l'US Air Force. Mon traducteur, c'est américaine, qui m'a dit c'est pas ça le slogan de l'US Air Force. Et donc, la première édition de l'Anomalie et Collector, parce qu'il y a une erreur sur le slogan de l'US Air Force qui est corrigée après. Le slogan de l'US Air Force, c'est horrible, c'est Morse Abalto. Donc la mort qui vient d'en haut. Sympa.
Oui. Il y a, en parlant de force américaine, il y a un certain président que tu décris comme étant un mérou à perruque jaune qui ne comprend pas la différence entre la situation, enfin, le contexte dramatique de Matrix et celui de l'anomalie. Est-ce que tu peux en dire un mot et en fait clarifier, du coup, comme si on était nous-mêmes des Mérous à perruque jaune.
En fait, ce personnage qui ressemble vaguement à Trump,
j'ai écrit très peu. Hein.
Non, mais j'ai écrit le livre en 2019, donc j'ai vraiment achevé le livre fin 2019. Et je rappelle donc qu'on ne pouvait pas deviner, un, le confinement. J'ai ajouté les trucs du confinement au moment des allers-retours en correction avec Alima, donc début 2020. Et je ne pouvais vraiment pas imaginer que Trump ne serait pas réélu. Je pensais qu'il le serait. Donc j'ai préparé néanmoins un personnage dont je ne donne pas le nom. Et narrativement, il me sert à quoi, Trump ? En fait, ce qui est expliqué dans ce chapitre est un peu compliqué. C'est le chapitre Descartes 2.0 dans lequel j'explique ce que c'est que la simulation, ce que c'est que toutes les théories scientifiques. Donc pour un lecteur, c'est hyper chiant à lire.
Donc tu as mis un trickster.
Donc j'ai mis un abruti qui pose la question avant que le lecteur se la pose. Et j'ai pris Trump, enfin quelqu'un qui ressemble à Trump, comme béotien, comme grand naïf, et plutôt rigolo, qui en permanence dit des choses idiotes, mais qui au moins permettent au lecteur de les entendre poser au moment où il va se les poser. C'est extrêmement utile, ce genre de personnage dans un roman.
Le Candide.
Le Candide, voilà. Et donc il était très utile pour ça, et il m'a permis finalement d'avoir un chapitre dont j'avais peur qu'il soit difficile pour les lecteurs, et le transformer en un chapitre où on s'amuse. Parce qu'il est tout le temps là à dire une connerie. Voilà.
Oui, surtout que le chapitre est un peu long. Il fait.
Il faut tout expliquer. Quoi.
Oui.
Ouais. Mais j'hésite pas parce que, après, d'autres questions se posent et qui sont posées différemment par un autre personnage. Mais il faut comprendre ce que c'est que cette idée de la simulation qui me paraît être une idée absolument démente, qui n'est pas du tout neuve. Hein, je veux dire, c'est. Il y a aussi ça dans ce livre, c'est que je tiens à dire qu'il n'y a aucune idée neuve. j'ai utilisé des choses que j'avais déjà lues auparavant. Nick Bostrom, j'avais vu sa conférence en 2002, mais je ne l'avais pas vu utilisée dans un roman. En science-fiction, il y a beaucoup de choses autour de K. Dick qui utilisent l'idée du virtuel, etc. Mais évidemment, il y avait eu le film aussi de Spielberg qui était... Player One, je ne sais plus,
oui, ouais, oui.
Qui racontait l'histoire de ce monde virtuel, etc. Et c'est quelque chose qui était présent. Mais l'idée d'utiliser dans un roman, entre guillemets, littéraire, toutes les perspectives qui sont ouvertes par la confrontation à soi à travers l'existence d'un double, ça n'avait pas été fait. Et donc, je l'ai utilisé pour ça. Et je trouvais ça fécond en termes narratifs et en termes fictionnels. J'arrivais à des choses vraiment intéressantes.
Les relations qu'il y a, qui obligatoirement sont établies entre les doubles,
oui.
sont très très différentes d'une personne à l'autre.
Oui, parce que c'était ça aussi, comme ça. C'est comme ça que le livre a été construit. Le livre a été construit à l'envers. C'est une chose que je n'ai pas dite, mais sur la construction oulipienne d'un livre. En général, quand vous écrivez un livre, vous avez un personnage, ce que disait justement l'intervieweur de Gallimard, et qu'est-ce qui arrive à ce personnage ? Là, c'était le contraire. J'avais pas un personnage que je précipitais dans 250 situations différentes. J'avais une situation, j'avais une multitude de réactions possibles à cette situation du dédoublement, et je m'interrogeais sur quelles étaient ces réactions possibles. Il y avait le sacrifice, il y avait le meurtre, il y avait la négociation, il y avait l'amitié. Je faisais une liste de tout ça, et par rapport à cette liste, j'ai fait ce qu'on peut appeler une distribution cinématographique, c'est-à-dire que j'ai dit, bon, ok, il y a un meurtrier, quelqu'un qui va éliminer son double. Bon, moi, je ne sais pas vous, je ne sais pas dans la salle, mais moi, je rentre chez moi, il y a un double. Ma première idée, ce n'est pas de lui planter un coup de surin et de le découper en morceaux. Ce n'est pas ma première idée. C'est plutôt de négocier le contenu du frigo, ma vie personnelle, comment on fait avec mon fils.
Bon, il faut dire que c'est quand même un tueur à gages,
mais
ce
lui,
personnage.
Voilà. Et donc, pour obtenir un personnage qui... lui est beaucoup plus froid et qui décide méthodiquement d'éliminer son double, il fallait que je trouve un personnage plausible. Et le seul plausible, c'était un tueur à gages. Et je suis comme ça dans une situation de casting, entre guillemets, pour chacune de mes situations, et je me dis, qui est-ce qui peut se sacrifier ? Et je ne voyais pas très bien qui pouvait se sacrifier. Et il fallait trouver une raison très, très juste pour se sacrifier face à son double. Et j'en ai trouvé une qui me paraissait, disons, possible, optimale. Optimale par rapport au projet aussi que j'avais d'une très grande diversité. Je voulais tous les âges. Je voulais tous les genres, je voulais toutes les sexualités, je voulais toutes les origines sociales, enfin, presque toutes les origines sociales. Et ils sont dans un avion, donc c'est sûr qu'on n'a pas le paysan péruvien, mais dans un avion, il y a quand même pas mal de diversité. Et donc, pour avoir toute cette diversité, il fallait quand même que je fasse cette distribution dont je parlais, qui correspond finalement à des pièces d'un échiquier, qui sont tous différents les uns des autres, et qui, chacun dans leur domaine, occupent une place qui permet d'avoir une histoire en soi. Et de couvrir aussi beaucoup de sujets qui m'intéressaient. Que ce soit l'homosexualité en Afrique, que ce soit les questions de la toute-puissance des sociétés pharmaceutiques, que ce soit toute une série de questions qui m'intéressaient. Et que j'ai pu traiter à travers cette idée justement de la distribution de mes réactions face aux situations du dédoublement.
Comment il y a toujours quelque chose qui m'a étonné avec l'anomalie, c'est le fait que finalement on soit en face d'un roman de science-fiction, on est d'accord.
Oui, mais... le mot ne me dérange pas. Ce n'est pas celui que j'ai utilisé, non pas parce que je n'aime pas la science-fiction, j'adore la science-fiction. C'est juste parce que, adorant la science-fiction, je ne pouvais pas le placer dans la science-fiction. Justement.
Pour quelle raison?
Parce qu'il y a de la science, il y a de la fiction, mais ce n'est pas de l'anticipation, il n'y a pas de technologie nouvelle. Tout se passe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul élément de type anticipation. La seule chose, c'est
sauf les consciences informatiques.
Sauf les consciences informatiques qui font qu'on utilise le texte de Bostrom en inversion. Et on se dit, bon, on est dédoublé. Donc là, c'est une proposition que moi, j'ai appelée expérience de pensée. Ce n'est pas une guerre des mondes, ce n'est pas un homme invisible pour prendre des bouquins de Wells, ce n'est pas des mutations génétiques qui amènent à des mélanges entre des hommes et des chiens ou des chats. Donc on n'est pas dans cet univers-là, c'est le nôtre. Et c'est tellement le nôtre que dedans il y a Trump, qu'il y a Macron, qu'il y a Ed Sheeran, qu'il y a Vincent Cassel, que je mets des gens qui sont dans le... Donc c'est pas tout à fait ce que je peux appeler science-fiction. Mais j'ai rien contre cette terminologie. Il se trouve que pour moi c'est une expérience de pensée, on se dit, bon, et si c'était possible? Effectivement, ça amène à des topos qui sont ceux de la science-fiction, qui effectivement qu'on peut retrouver dans la science-fiction ou dans le fantastique. Hein. Je n'ai pas non plus grand-chose contre le fantastique. Je trouve ça, que ce soit Henry James ou que ce soit Maupassant ou que ce soit Bram Stoker, j'adore, enfin, ou Mary Shelley, j'ai des références un peu anciennes, je suis désolé, mais ça a constitué mon univers de constitution d'écrivain. Je veux dire, j'ai lu Frankenstein avec fascination, voilà. Et je pense que ça fait partie des classiques. C'est-à-dire qu'on a tort d'imposer de lire. Il y a des classiques qui pourraient être avantageusement remplacés par d'autres classiques. Quoi.
Si on considère que, on va pas dire, peut-être pas parler de but de la science-fiction, mais en tout cas de caractéristiques première de la science-fiction qui permet de révéler des choses cachées appartenant à notre époque, il y a beaucoup de critiques dans l'anomalie. On critique les médias, on critique les gouvernements, ouais. On critique les comportements sociaux. Généralement, à peu près tout le monde en prend pour son grade. Est-ce qu'il y a eu des réactions? D'abord, pourquoi avoir été assez virulent? Et est-ce qu'il y a eu des réactions disons agressif par rapport au contenu du livre?
Non, j'ai jamais été invité à l'Élysée.
Ah, flûte.
Alors, en général, le Goncourt est invité à l'Élysée.
Mais c'est pas grave, les Utopiales, c'est bien.
Mais là, j'ai pas été invité à l'Élysée. Mais je pense que c'est lié au confinement, hein, forcément.
Oui.
Voilà. C'est pas parce que Trump dit du mal de Macron, de toute façon, il en dit certainement beaucoup de mal.
Donc, et probablement vice-versa.
Et vice-versa, et voilà. Donc, non, je pense que le livre était conçu pour pouvoir aborder beaucoup de sujets, énormément de sujets. Que ce soit la construction d'une sorte de cité merveilleuse à deux pas d'un bidonville, comme va l'être Éco-Atlantique, voilà. ou que ce soit la réflexion sur la manière dont aujourd'hui les ultra-riches envisagent de racheter des îles de très grande taille, comme la Nouvelle-Zélande, pour s'y installer en cas de réchauffement climatique. Donc tout ceci fait partie du monde tel qu'il est en train de se construire et qui est très inquiétant. Donc c'était l'occasion de parler de tout ça, mais c'est quelque chose que j'ai toujours fait avant, c'est-à-dire je suis sorti de 15 ans à travailler au Monde sur des sujets qui étaient des sujets de billets quotidiens où je pouvais m'exprimer de manière extensive, même courte, puisque j'avais que deux lignes, mais sur tous les sujets qui passaient. Donc c'était quelque chose, disons que la question politique au sens générique du mot politique, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. La place de l'homme dans la cité, c'est quelque chose de fascinant. Et aujourd'hui, je sais bien que on dit toujours on est à un tournant, vous avez des années qu'on est à des tournants, mais y a clairement un enjeu croissant sur ces questions-là. Donc il n'était pas question de traiter d'un livre planétaire, qui était le cas de l'anomalie, sans aborder des problèmes planétaires. Donc c'était tout à fait naturel de le faire, et j'avais l'occasion de le faire de manière brève et ironique. Donc je ne m'en suis pas privé. Et puis ça m'amusait parce que c'est quand même... il y a dans cette tragédie dans laquelle on est tous jetés quelque chose de terriblement drôle, finalement, et de terriblement ironique, parce que rien ne se fait, alors que chaque jour, là, il fait très beau dehors, hein, vous avez remarqué ? On est à quelle date déjà ? Voilà. Bon. Donc tout le monde a tous les éléments devant soi pour juger, il ne se fait rien. Donc dans un livre qui parle de la planète, ne pas mentionner ces problèmes-là, ça serait absurde.
Oui, absolument. Qu'est-ce que c'est que les œufs de Pâques de Flaubert ? Oui.
Ah, les œufs de Pâques ? Il n'y a pas ça que chez Flaubert, hein. Il y a ça chez beaucoup d'auteurs. Il se trouve que Flaubert, il passe beaucoup plus de temps sur n'importe quel livre que beaucoup d'auteurs. Donc, il a quand même fait, en dehors des œuvres de jeunesse, il y a 4 livres de Flaubert, ça ne fait pas beaucoup. Donc, Flaubert, il a une tendance à inclure dans ses histoires des souvenirs personnels qui sont intimes et qui va glisser et qu'on peut reconnaître lorsqu'on lit sa correspondance. Par exemple, si on lit sa correspondance avec Louis Collet et qu'on regarde son voyage en Égypte, on voit qu'il remet dans sa Lambeau des moments de la correspondance avec Louis Collet où il explique qu'il est allé dans tel ou tel salon de thé, qu'une prostituée sentait le camphre. Et on retrouve dans sa Lambeau exactement la phrase qu'il a mise dans sa correspondance avec Louis Collet. Donc l'œuf de Pâques, c'est ça. Il y a plusieurs niveaux d'œufs de Pâques dans l'anomalie, par exemple. Il y a les blagues pour 3 copains ou 4 copains ou 10 copains, voilà, qui sont à peine visibles, voilà. Il y a celles qu'on peut dire pour tous ceux qui connaissent l'univers un peu olympien, et puis celles qui sont faites pour tout le monde, comme tout à l'heure quand je disais le début d'Anna Karénine. Soit on ne connaît pas Anna Karénine et on s'en fout parce que ça fait quand même un bon début de chapitre sur le vol et sur les problèmes des avions. Soit on connaît le début d'Anna Karénine et on sourit. Mon but, lorsque je fais une référence culturelle, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets autour, c'est pas de dire « t'as vu » au lecteur. Parce que ça, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de dire à un lecteur qui connaît « t'as vu, on peut rigoler ensemble », et à un lecteur qui connaît pas, ne pas l'ennuyer du tout. Ça lui fait quand même un bon début, même si on connaît pas le début de Karénine, ça fait un bon début de chapitre. Donc c'est ça l'idée, c'est de jamais prendre le lecteur... Pour le lecteur collectivement, il est beaucoup plus intelligent que nous, beaucoup plus que n'importe quel auteur. Il sait beaucoup plus de choses. Moi, quand je fais un livre où je parle de médecine, comme dans ce livre-là, ou que je parle d'architecture, ou que je parle de pilote de ligne, mais j'interviewe des pilotes de ligne, j'interviewe des architectes, j'interviewe des médecins, j'ai trop peur de tomber sur un architecte qui va me dire « mais tu racontes n'importe quoi ». Parce que si je tombe sur un architecte qui me dit que je raconte n'importe quoi, c'est que je raconte n'importe quoi partout ailleurs. Or, j'ai 7 métiers, ou 10 métiers dans ce bouquin.
Du coup, il y a du travail de documentation.
Du coup, il y a 10 personnes qui ont bossé. La monteuse, quand je dis qu'elle envoie ça aux effets spéciaux, c'est parce que ce n'est pas son boulot. Ce n'est pas faire ça. Ce n'est pas elle de faire ça. C'est le flouter quelque chose dans l'air. Ce n'est pas elle de le faire. C'est quelqu'un. Donc, elle le signale. Donc, je me documente énormément. Et cette documentation, en fait, elle donne aussi naissance à de la fiction. Le fait de bien se documenter donne ça. Donc pour moi, les OTPAC, c'est ça aussi, c'est la possibilité à des lecteurs de s'y retrouver, même quand ils sont dans un domaine donné. À un moment donné, je dis le mot bolus de morphine. Je ne connaissais pas le mot bolus avant d'écrire la phrase bolus de morphine. Voilà. Un bolus, c'est une dose qui correspond à un certain poids, à une certaine intensité de produits dans la fiole, etc. Donc ce sont des mots que je ne connaissais pas, mais quand on les met, ça ne coûte rien, ça n'arrête pas le lecteur, il se doute bien que ça parle de morphine, bolus de morphine, et puis pour un médecin, ça accrédite l'idée qu'on a affaire à un médecin.
Oui, le vocabulaire est adapté au personnage.
Je crois que le vocabulaire est très important. Je pense que c'est très important que le mec qui est architecte, il sache que son béton, il doit correspondre aux normes HP22. Ça n'arrête personne, mais ça amène un élément de narration qui, moi, m'intéresse. En plus, une fois de plus, le travail documentaire amène de la fiction, toujours. C'est ça qui est fascinant. Vous découvrez un truc, vous pouvez raconter une petite phrase en plus ou deux petites phrases en plus.
Quand on se documente, on ne se fait pas en fait, attraper par la documentation, parce que c'est toujours passionnant.
C'est le danger,
du coup, y passer un peu trop de temps, juste par le plaisir, pour le plaisir.
Non, mais c'est comme Maïlys de Kerangal, quand elle raconte son truc sur le pont. C'est totalement génial parce que c'est vraiment très, très, très documenté et on ne s'ennuie pas une seconde. Donc, j'ai pas peur de la documentation. J'ai presque plus peur de me faire avoir par la fiction que par la documentation. La documentation, on peut... les bouquins de Génada, même si on remonte plus loin, Zola, c'est un type qui se documente comme un fou avant de commencer à écrire Nana, Gervaise. Donc c'est des bouquins très, très documentés. Au Bonheur des Dames, c'est...
Tolstoï avait passé énormément de temps avant d'écrire Guerre et Paix.
Voilà. Si on ne passe pas ce temps-là, on ne peut pas écrire, en fait. C'est ce temps-là qui donne la possibilité d'écrire les romans qu'on écrit. C'est parce que ça amène, une fois de plus, de l'histoire. Ça amène des histoires, même. Et ça enrichit considérablement... La possibilité les personnages eux-mêmes rentrent d'un seul coup dans un costume qui est beaucoup plus étoffé que ce qu'ils auraient s'ils n'étaient pas documentés au maximum. Ils rentrent dans un costume de médecin et c'est bon, c'est un médecin, ça marche. Et donc on a deux pages pour décrire un médecin. Au bout de deux pages, tout le monde y croit. Et grâce à la doc.
On va parler de la Joconde un peu. Dans la Joconde jusqu'à 100, 99 plus 1 point de vue sur Mona Lisa, c'est un catalogue et avec des références, en fait une référence quelque part à Raymond Queneau, et on se retrouve avec notamment un personnage d'ailleurs qui s'appelle Zazie, mais pas que lui, il y a aussi Sherlock Holmes, une certaine Madame Marguerite D, le commandant Cousteau, Rocambole, un tonton flingueur, je ne sais pas d'où tu sors ça, Bertard Pivot, un certain docteur Lacan aussi. Et bien sûr, Perret, qui est d'ailleurs aussi un cruciverbiste et un amateur de puzzle dedans. Je te laisse lire le point de vue de Cyrano de Bergerac sur la Joconde.
Alors, c'est parti de ces choses un peu dangereuses, parce que justement, comme c'est référencé, ça peut ne rien dire à personne. Hein. Mais c'est pas très grave, on s'en fout. C'est le danger, une fois de plus, de faire des fragments. Donc, ça donne. Vous avez un sourire, indéfinissable. Et donc, Simona de Lisac répond « Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme. » Jusque-là, il n'y a rien de moi. On est d'accord. En variole-t-on, par exemple, tenez, résigné. À quoi bon triturer ses méninges si l'on ne tire rien de ce sourire de sphinge ? Malicieux. Parlez-vous quand vous faites la moue ? Flatteur. La rose est tendre à vos lèvres charnelles. Portez-vous énigma de la maison Chanel ? Inquiétant. Madame, si j'avais ce sourire, chacun m'accuserait d'être goule ou vampire, médisant. Allons donc, ce sourire est factice. Ses dents n'ont jamais vu la pâte dentifrice. Moqueur, mon cher amour, pourquoi fermer la bouche? Avez-vous donc si peur de gober une mouche? Anatomique, ce pli soucieux au coin des lèvres cache avec certitude une mâchoire de chèvre. Médical, cher ami, ouvrez grand, je vous prie, que je vous fraise enfin cette affreuse carie. Terrifié, camouflez si vous pouvez vos dents, on sait que vous avez dévoré vos enfants. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit, si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Voilà. C'est le danger des fragments. Hein. et du fragment référencé, c'est-à-dire que ça peut ne rien dire à quelqu'un qui n'a pas lu Cyrano de Bergerac ou qui ne l'a pas vu.
Alors il y a des références
on
plus évidentes.
On a confiance en Depardieu. Donc,
oui, ça. Il y a quelques références plus évidentes comme le point de vue de l'agent 007, alors je ne sais pas trop qui c'est. Nous ne nous sommes pas déjà rencontrés, monsieur. Monsieur Conde, my name is Conde, Joe Conde. Et il reste 5 secondes, donc c'est magnifique. On a une synchronisation parfaite pour finir sur un calembour.
Voilà.
Merci d'être venu et merci Hervé.